cours de philosophie première du Père Marie-Dominique Philippe, le 20 octobre 1999 à Saint-Jolard.
Bien. Petite question. Parce que notre intelligence est conditionnée par les sensations. Il semble que l'appréhension est première génétiquement par rapport au jugement. Comment donc comprendre que le jugement d'existence porte sur l'exister, ce qui est l'exister de la réalité, et non pas sur l'exister de ce qui est appréhendé du connu? C'est très bien comme objection, parce que c'est la grande objection de la philosophie réaliste contre la philosophie par rapport au néoplatonisme. Donc, c'est une objection qui est bon de sortir, de bien voir ce que ça signifie et comprendre pourquoi nous affirmons le jugement d'existence comme premier. C'est toute la question du conditionnement et de la réalité en elle-même. La ratio et le mot douce. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que l'intelligence est dépendante du conditionnement qu'elle est, ou est-ce qu'elle existe par elle-même? L'éveil de l'intelligence, c'est l'éveil de l'esprit en nous. Est-ce que l'esprit est dépendant dans sa spécification de son conditionnement? Et c'est toute notre vie, ça. C'est la question des rapports entre la philosophie et la psychologie. Constamment, c'est comme ça. Et on est toujours tenté, je dis bien, c'est la grande tentation philosophique, on est toujours tenté de regarder le conditionnement en premier lieu. Le conditionnement est premier du côté de l'exercice, d'une certaine manière. Mais cet exercice, il est déterminé. Il est déterminé par quoi? Est-il déterminé par son conditionnement? Je peux très bien, quand je pense, regarder mon conditionnement, mais comment je vais penser? Et est-ce que quand vous pensez, c'est le comment que vous pensez qui est premier, ou bien c'est la pensée? C'est la grosse question. Si c'est le comment que vous pensez, vous êtes tout le temps à l'état réflexif sur votre conditionnement. Et vous ne regardez pas. Il n'y a plus de contemplation. La contemplation n'existe plus. La contemplation, c'est la finalité. C'est justement ce vers quoi je tends. Est-ce que ce vers quoi je tends est premier? Et je sais que mon conditionnement, c'est toujours le climat de lutte dans lequel je me trouve pour dépasser tout cela, pour arriver à la finalité. Ou est-ce que c'est l'inverse? Oui. Comment s'éveille notre intelligence? C'est là la grande question. Est-ce que mon intelligence a un objet qui lui est propre? Ou est-ce que l'objet propre de mon intelligence, c'est mon conditionnement? Si mon intelligence a son objet propre, c'est cet objet propre qui est la détermination de mon intelligence. Quel est l'objet propre de mon intelligence? C'est l'être, ce qui est. Ça, je ne l'atteins pas par mes sens. J'atteins pas par mes sens, j'atteins pas ce qui est par mes sens, j'atteins les formes, les qualités, la grandeur. C'est ça que j'atteins par mes sens. Mes sens touchent toujours quelque chose de concret. L'intelligence dépasse cela pour saisir son objet propre. Son objet propre, il m'est donné dans l'acte propre de mon intelligence. L'acte propre de mon intelligence, c'est le jugement, ce qui est, ceci est. Autrement dit, le conditionnement, c'est très vrai. J'ai une intelligence qui est dépendante des sensations. Et est-ce que ce sont les sensations qui déterminent mon intelligence, ou est-ce que l'intelligence a elle-même son propre objet? Là, je dirais, c'est la réflexion de ma propre intelligence. Est-ce que mon intelligence est capable de discerner l'être qui est à l'homme de l'homme? Cette expression si forte d'Aristote, n'est-ce pas? Le to einai anthropo. L'être à l'homme. Si mon intelligence est capable de discerner l'être à l'homme, et discerner l'être à la vache ou au crapaud. Le crapaud aussi existe. Et j'existe. Mon voisin, il existe. Qu'est-ce qui saisit l'existence de mon voisin? Est-ce que c'est son chapeau, son extérieur? Cette tenue que je saisis en premier lieu, oui, au point de vue descriptif, mais au point de vue de l'intelligence. La description, elle se fait au niveau sensible. Si je quitte le sensible, je ne peux plus décrire. Est-ce que vous pouvez décrire l'homme? Non. L'homme comme tel, vous ne pouvez pas le décrire. Vous décrivez tel homme, Jacques, Jean, Pierre. C'est ça que vous décrivez. Mais l'homme, l'homme, c'est l'intelligence qui connaît l'homme. Tandis que vos sensations, elles décrivent tel homme particulier, individuel. Vous allez me dire, c'est ça qui est intéressant, mais attention, vous décrivez, est-ce que quand vous décrivez, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cet homme qui existe, c'est l'autre. Et ce n'est pas cet aspect extérieur. Et comment avez-vous pu poser en nous une intelligence distincte de vos sens, distincte de votre imagination? C'est quand vous saisissez l'objet propre de votre intelligence. L'objet propre de votre intelligence, est-ce que c'est l'universel ou est-ce que c'est au contraire ceci et cette réalité qui existe? Est-ce que ce n'est pas l'être à telle réalité que vous pouvez décrire que l'intelligence saisit? Autrement, votre intelligence ne s'éveille jamais. Elle décrit. Elle est dépendante des sens si elle décrit. C'est très vrai qu'elle est dépendante des sens si elle décrit. Mais mon intelligence est toujours ce qui dépasse ses sens. Elle s'en sert et elle le dépasse. La preuve, c'est que je peux réfléchir sur ce dépassement. Que saisit mon intelligence qui est au-delà des sens? Et est-ce que ce n'est pas cela que je dois dire? C'est là l'éveil premier de mon intelligence. Alors, cet éveil premier de mon intelligence, qui est ceci, est complexe, c'est évident. Il est complexe parce que je dépends des sens. Donc c'est la complexité de mon jugement d'existence que je saisis. On est tous d'accord. Et qu'est-ce qui caractérise cette opération du jugement qui est propre à l'intelligence? Mes sens ne jugent pas. Ils décrivent, c'est pas la même chose. Je suis même dans la description. Tandis que l'intelligence saisit ce qu'est la réalité. Et c'est comme ça que l'intelligence interroge. Qu'est-ce que c'est que cela? Alors vous dites, c'est un homme, oui, mais c'est un homme, mais cet homme existe. Tel homme particulier qui existe. Ce qui est abstrait n'existe pas. Vous faites ce jugement, ce qui est abstrait n'existe pas. Si vous dites ça, ça prouve que vous avez déjà saisi ce qui est. Ce qui est abstrait n'existe pas. Or, que saisit l'appréhension? Quelque chose d'abstrait, la forme abstraite, la forme universelle. Cette forme universelle, c'est très vrai, elle est saisie et elle est première. Alors, première dans le sens de la détermination, dans le sens de l'exercice, elle est première. Mais elle n'est pas première au sens propre de la vie d'intelligence, comme objet propre de l'intelligence. Mais, autrement dit, l'aspect génétique de la vie de l'intelligence, c'est lorsque l'intelligence s'est éveillée. Et ce n'est pas à cause de la complexité de mon opération intellectuelle que l'objet de l'intelligence est saisi, c'est le conditionnement. Je n'ai pas une intelligence qui est séparée des sens. Les anges, les substances séparées, une intelligence séparée de sens. Elle est liée à ça. C'est mon conditionnement. Alors, est-ce que saisir ce conditionnement, est-ce que c'est ça qui est premier pour l'intelligence? Non. Puisque ce n'est pas mon intelligence, ce conditionnement. Mon intelligence est capable de saisir ce qui est propre à elle et son conditionnement. À quel moment mon intelligence s'éveille-t-elle comme intelligence, capable de dépasser les sens? C'est lorsqu'elle saisit ce qui est dans un jugement. Autrement dit, le jugement est l'opération propre de l'intelligence. L'appréhension, c'est un élément, l'élément premier de mon intelligence qui saisit d'abord les déterminations en vue de s'éveiller à ce qui est. Donc, c'est un élément, ce n'est pas un acte premier. Votre intelligence s'éveille dans le jugement. Votre intelligence ne s'éveille pas dans l'appréhension. C'est une intelligence fatiguée qui retourne sur l'appréhension. Et ce n'est pas ce qui est propre. C'est tout simplement ma manière particulière de connaître, c'est d'impliquer l'appréhension. Parce que je ne reçois pas d'un autre mes idées. Si je recevais d'un autre mes idées, l'appréhension serait première. C'est Platon. C'est le néoplatonisme. Vous voyez ? C'est donc extrêmement important, ça, de bien se dire, qu'est-ce qui éveille mon intelligence ? Quand mon intelligence est-elle éveillée ? Est-ce que c'est dans l'appréhension ou est-ce que c'est dans le jugement ? Et les rapports de l'appréhension et du jugement sont extrêmement importants. Je distingue les deux dans une attitude réflexive critique. Dans une attitude critique, je vois que le jugement n'est pas en premier. Pourquoi ? Mais parce qu'il est complexe. Ceci est. Donc il y a nécessairement quelque chose qui est avant cette complexité. Cette complexité implique deux éléments. Le nom et le verbe. En logique, ça se dit tout de suite, dans une attitude réflexive. Je n'ai pas un jugement simple. Mon jugement est toujours complexe. Et ce n'est pas parce qu'il est complexe qu'il n'est pas l'acte propre de l'intelligence. Mon intelligence étant une intelligence très faible, puisque elle est dépendante des sens, des sensations, de l'imaginaire. Mon intelligence ne s'éveille, n'est parfaite que dans la complexité. Et il y a une appréhension première, mais qui se manifeste dans la réflexion. Je vois que, en effet, avant le jugement, il y a une saisie. J'appréhende. Mais ce n'est pas l'acte propre de l'intelligence. Parce qu'en appréhendant homme, en appréhendant la quiddité, je ne saisis pas ce qui caractérise ma vie intellectuelle. C'est dans le jugement, et c'est ce que vous dites, est-ce que c'est vrai ça ? Quelle est la qualité propre de l'intelligence? C'est la vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'appréhension. La vérité est toujours dans un jugement. Oui ou non. Alors ça manifeste parfaitement ce qu'est l'intelligence. L'intelligence est faite pour la vérité. C'est sa qualité. Or, il n'y a pas de vérité dans l'appréhension. Donc vous êtes condamné à ne jamais atteindre la vérité. Si vous prenez le point de vue de l'appréhension comme un acte premier qui détermine ma vie intellectuelle. Oui. La vérité manifeste le caractère propre de l'intelligence. Pas de vérité dans l'appréhension. Oui. Ça manifeste tout de suite. Ça manifeste tout de suite la qualité propre de l'intelligence. C'est la vérité. Elle est faite. Quand vous dites à quelqu'un qui vous raconte beaucoup d'histoires, vous dites, est-ce que tout ça c'est vrai? Et oui, c'est vrai. Mais montre-le-moi. Alors, pour montrer que c'est la vérité, où vous revenez à l'expérience? Dans l'expérience, il y a toujours le jugement. Toujours. Et vous revenez à la réalité. Dans l'appréhension, qu'est-ce que vous disiez? Oh. Est-ce que vous avez expérimenté homme? Moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Homme, comment j'ai saisi homme? Homme, c'est un terme abstrait. Donc, je ne l'ai pas expérimenté. Je n'expérimente pas l'abstrait. Je dis l'abstraction est un élément de ma vie intellectuelle. Pour avancer, je dois abstraire. Je ne m'y arrête pas, c'est pas intéressant. Mais c'est la condition sine qua non pour que la science existe. La science n'existe pas dans le point de vue de l'expérience concrète. La science existe grâce à l'abstraction. Oui. Donc, c'est au point de vue des conditions, c'est évident que c'est la première condition de ma vie intellectuelle, c'est l'appréhension. Et ce n'est pas la détermination de ma vie intellectuelle. Quand je reste dans l'universel, je ne suis pas dans le réel. Je suis dans quelque chose d'abstrait. L'abstraction, je l'accepte en vue de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'abstraction. On peut se tromper complètement. Il n'y a pas de vérité. Quand je demeure homme, mais homme. Ça signifie quelque chose, mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'appréhension. La vérité est dans le jugement. Ceci est. Parce que la vérité implique toujours le retour au réel. Toujours. Autrement, il n'y a pas de vérité. C'est la réalité qui mesure mon intelligence. Ce n'est pas mon intelligence qui mesure la réalité. La réalité existe avant moi, même génétiquement. Elle existe avant. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? Conformité de mon intelligence avec la réalité. Ce qui ne peut se faire que dans le jugement. La vérité, ce n'est pas dans l'abstraction que vous la découvrez, mais dans le contact avec le réel. C'est ce qu'on dit toujours à Sartre. Sartre regarde au café si Pierre est présent. Même Sartre est obligé de reconnaître. Il demande, il entre au café, il dit, est-ce que Pierre est là? Pourquoi dites-vous ça? Pierre est là, c'est tout. Ah mais non, mais ce n'est vrai que s'il est là. Et c'est vrai. C'est Pierre que je veux voir. Cette réalité qui existe, c'est pas Pierre in abstracto. Quand vous ne faites plus la différence entre Pierre et l'homme et Pierre, vous ne faites plus la différence entre le jugement qui porte sur ce qui est et l'abstraction. Toute une philosophie a fait ça. C'est ce qu'on appelle l'ontologisme, qui dépend de Platon. Tout ce que je pense est vrai. Et non, c'est pas juste. Tout ce que vous pensez n'est pas vrai. Parce que ce que vous pensez, c'est la prière. l'appréhension. Pensez. Cogito, c'est l'appréhension. Cogito ergo sum. Mais non, c'est pas parce que vous pensez que vous, vous existez. Oui, c'est sûr, mais pas que la réalité que vous pensez existe. Dans l'ontologisme, si je pense quelque chose, c'est réel, c'est du platonisme. Je pose l'existence à partir de l'acuité. Donc vous voyez, c'est très bien de poser la question parce que c'est, il faut, chacun d'entre vous, arriver à faire ce discernement. Si vous ne faites pas ce discernement, vous ne voyez pas la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. Elle est là, le jugement. Si vous faites de l'appréhension la première opération de l'intelligence, ce qui détermine mon intelligence, alors que c'est ce qui conditionne mon intelligence. Mon intelligence n'est pas déterminée par le fruit de l'abstraction. Mon intelligence n'est pas déterminée par son propre fruit et la modalité propre de son fruit, c'est-à-dire la pensée. L'intelligence est faite pour la réalité, dans le jugement de l'existence. Mais nous avons beaucoup de peine, ça. Nous avons beaucoup de peine à comprendre ça parce que nous avons 4 siècles de Descartes, cogito. Et nous pensons que le cogito, oui, c'est ça, c'est la pensée. C'est l'appréhension cogito. Je cogite quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ça, je ne sais pas. Je cogite, je pense. C'est l'idée. Alors, entrons maintenant dans ce point de départ de la philosophie. Oui. Mais voyez bien que tout de suite, si le point de départ de ma pensée, c'est l'appréhension, le point de départ de ma philosophie, c'est l'appréhension. Si le point de départ de ma vie intellectuelle, c'est le jugement d'existence, le point de départ de ma philosophie, c'est le jugement d'existence. C'est donc capital, ça. Et pour comprendre ce qu'est une philosophie réaliste, qui se confronte toujours avec la réalité, et la réalité la plus grande que j'expérimente, la plus parfaite que j'expérimente, c'est l'homme. Vous n'expérimentez aucune autre réalité plus parfaite que l'homme. Et c'est pour ça que le problème se pose avec une très grande acuité, et c'est le problème de la philosophie européenne. C'est le problème de Hegel. C'est le problème de toute la philosophie allemande. C'était le problème de Kant. Et c'est mon problème, encore. Dois-je partir pour ma philosophie du « je suis » cogito ? Je pense. Ou de « ceci est ». Alors, c'est important parce que c'est là la bifurcation. La bifurcation, elle se fait là. À partir du moment où la philosophie a commencé par la réflexion sur ma propre pensée, je me suis enfermé dans mon conditionnement. Je fais la philosophie de mon conditionnement. Et c'est ça qu'on devrait dire. Je fais la philosophie de mon conditionnement. J'accepte d'être prisonnier de mon conditionnement. Et je fais la philosophie de ma prison. C'est beau, tu vois, c'est une très belle prison, donc c'est quand même une prison. Parce que vous ne vous quittez jamais, et vous restez là toujours, devant. Comme ce à travers quoi je saisis tout le reste. Alors que dans la réalité, dans une philosophie réaliste, c'est la réalité qui vous conduit, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est-à-dire ce n'est pas votre pensée, ce n'est pas votre cogito, c'est la réalité. Vous êtes la réalité aussi, je suis la réalité aussi pour ma philosophie. Mais Mais je suis, moi, la réalité, moi, je suis, n'implique pas seulement ma pensée. J'aime. J'existe. Et j'aime. Et puis il y a ma pensée. Et donc ma pensée ne m'enferme pas sur tout. Parce que quand je pense, quand j'aime, c'est autre chose. Et alors, par le fait même, l'amour est pris en référence avec la connaissance. La seule chose que je connais dans l'amour, c'est ma connaissance, nécessaire à l'amour. Mais elle est nécessaire à moi comme une condition d'amour, mais pas comme déterminant l'amour. Je n'aime pas dans la mesure où je connais. Non. L'amour est autre chose que la connaissance. Mais là encore, on touche, vous voyez, le point de vue de l'appréhension et le point de vue du jugement. Il y a une expérience propre de l'amour qui est irréductible à l'appréhension. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et ce n'est pas l'amour passionnel, c'est l'amour spirituel. Et cet amour spirituel me donne un contact direct. Cet amour passionnel touche la réalité sensible. Je peux décrire la passion, mais je ne peux pas décrire l'amour spirituel. C'est pour ça que la plupart du temps, l'amour, c'est tout de suite la passion. Vous ne pouvez pas mettre en affiche l'amour spirituel. Vous ne pouvez pas mettre au cinéma l'amour spirituel. Tandis que la passion, oui, ça se décrit. C'est capital, ça, de faire ces distinctions. Et ça montre tout de suite, vous voyez, que ma connaissance, qui n'est pas uniquement l'appréhension, mais qui est d'abord et en premier lieu le jugement, dans le jugement, je vois que ma connaissance de l'amour n'est pas l'amour. Et ma connaissance de l'amour me permet de communiquer aux autres ce que j'aime. Mais ce que j'aime, en réalité, c'est une personne que je ne peux pas communiquer aux autres. J'aime son altérité, qu'elle est autre que moi. Et c'est pour ça qu'elle me dépasse. Et c'est dans ce sens-là que je peux l'aimer. Tant que vous restez dans la connaissance de l'amour, vous n'aimez pas vraiment. C'est vous. C'est pas l'autre. C'est toute la connaissance de l'autre qui est dans le jugement. Vous touchez son exister. Et touchant son exister, il y a besoin de quelqu'un comme vous voyez, comme tous les féminologues et tous les philosophes féminologues. N'arrive jamais à comprendre ce que c'est que l'amour. Il tourne toujours autour, indéfiniment. Ce qu'il regarde, c'est la connaissance de l'amour. La connaissance de l'amour n'est pas l'amour. C'est une expérience propre de l'amour qui me permet de me dépasser. Alors, la grosse question, puis-je commencer ma philosophie, ma métaphysique, par le « je suis » ceci est. Alors, faisons d'abord une petite étude très simple, objective, par le point de vue du langage. C'est intéressant, ça nous éveille. Mais dans le point de vue de ceci est, donc il y a le nom et puis l'attribution. Alors, qu'est-ce que je cherche en métaphysique ? C'est le propre de la métaphysique, c'est étudier ce qui est en tant qu'être. La fameuse affirmation d'Aristote qui montre qu'une métaphysique étudie non plus le devenir, mais et ce qui est en tant qu'il est. Je réduplique exprès la réduplication sur être. Je regarde l'être en tant qu'être. Et c'est cela qui caractérise la philosophie première. Or, quand je dis « ceci est », j'attribue « est » à ceci. Je n'ai pas séparé, je n'ai pas distingué. Mais ce qui m'intéresse en métaphysique, c'est « est ». Ce n'est pas ceci, puisque c'est l'être en tant qu'être. Ceci, c'est... Je ne fais pas la métaphysique de l'homme. Non, je fais la métaphysique de l'être qui est à l'homme. Ce n'est pas la même chose. Je fais la métaphysique de ce qui est. Vous comprenez très bien, si je fais la métaphysique de l'homme, je n'atteindrai jamais, je dis ça en plus, je n'atteindrai jamais le terme de ma métaphysique, qui n'est pas l'homme, qui est ce qui est au-dessus de l'homme. Est-ce que mon intelligence est capable de découvrir celui qui est premier parmi toutes les réalités? Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est important de savoir comment un Aristote a découvert l'existence d'un être premier. Comment, alors si je suis chrétien, comment l'Église affirme que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu? Je dois tenir compte de ça. Dans la dernière encyclique, le pape le dit de façon très nette. Et le pape précédent, Paul VI, l'avait dit aussi de façon très très nette dans tous ses discours sur l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Comment puis-je atteindre l'existence de Dieu? Par l'être. Et non pas par le ceci. Même si ceci existe, il faut arriver à distinguer être et ceci. Ceci, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. L'homme, c'est pas l'homme comme tel, mais c'est Pierre, c'est Jacques, c'est tous. Et ceci, ça peut être aussi la vache, c'est peut-être le crapaud, c'est ceci, il existe. Donc ceci est tout ce que vous expérimentez directement et dépasse tout cela, puisque il regarde ceci, l'homme, Jacques, Jean, il regarde le crapaud, il regarde la terre, toujours. Donc il y a dans être quelque chose qui dépasse tous les soucis. Ça, c'est facile à comprendre. Par le fait même, je peux progressivement, à partir du jugement d'existence, ceci est, regarder l'être et me séparer du ceci. Je ne l'abstrais pas, puisque le ceci est aussi. Mais j'illumine et je laisse le ceci. Puis-je faire cela avec le je suis? Quand vous dites je suis, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'affirmation je suis? C'est vrai, l'être est encore relatif au je. Est-ce que le je est ceci? Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que quand je dis « je suis », le « je » est tellement fort qu'il absorbe l'être. Quand vous dites « je suis », vous êtes seul dans votre existence. Vous ne pouvez pas dire que vous saisissez le « je suis » du voisin. Non, pas du tout. Le voisin, c'est pas « je suis ». « Je suis », c'est moi. Oui, c'est votre « moi ». votre moi haïssable, hein, comme ni l'autre. Là, c'est le moi est haïssable. Et chaque fois que vous dites je suis, c'est moi. Et c'est pas toi. Je m'enferme dans mon moi, dans mon je suis. Et je ne rencontre jamais l'autre. Jamais. Si vous partez du je suis, vous allez faire tout l'itinéraire que vous voulez, vous ne rencontrerez jamais l'autre. Parce que l'autre, c'est celui qui n'est pas. Qui n'est pas le je suis. Ça, c'est bien évident que l'autre, c'est celui qui n'est pas le je suis. Donc, l'autre est mis en dehors. Tandis que dans ceci est, ben oui, l'autre aussi existe. Il est comme moi-même. Vous voyez, l'autre, il est ici. Et puis, il est un ceci. Là, vous voyez, cette chose très curieuse, dès le langage, hein, dès le langage. Et le langage est toujours intéressant à regarder. Parce que c'est l'expression, c'est la manifestation de la pensée. Il ne faut pas s'arrêter au langage, mais ça manifeste la pensée. Alors là, vous touchez tout de suite que quand vous dites « je suis », l'être est comme absorbé dans le « je ». Le « moi » est quelque chose de tellement fort en moi qu'il absorbe l'être. Donc, l'être est totalement relatif au « je ». Il est absorbé. Tandis qu'au contraire, quand vous dites « ceci est », la multiplicité et la diversité des « ceci » montrent l'unité de l'être. L'être est donc transcendant par rapport à « ceci ». L'être est immanent par rapport au « je suis ». Ça, je crois que vous pouvez tous saisir ça. Et ça, ça me semble très important. Il y a une immanence de l'être dans le jeu, et il y a une transcendance de l'être dans le ceci. Et par le fait même, ceci est me permet de saisir l'être indépendant du ceci. Et c'est ça que je cherche. Ceci est. C'est vrai que l'être me sera toujours donné dans le ceci. Oui, vous retrouvez appréhension et jugement. Ceci, appréhension, jugement, ceci. Mais vous retrouvez que l'appréhension est absorbée par le jugement. Parce que justement, c'est qu'un élément. Et donc à ce moment-là, c'est le jugement qui me donne ceci. Je ne peux pas saisir ceci est dans l'appréhension. Non. Qu'est-ce que je saisis dans l'appréhension ? Uniquement ceci et uniquement moi. Et dans l'appréhension, vous comprenez que le moi est quand même bien plus important que le ceci. Vous êtes bien d'accord, hein ? Moi, c'est quand même plus important que ceci. Oui. Moi, je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Et tout est relatif à moi. Et ceci montre bien que si je mets l'appréhension comme premier acte d'intelligence et non pas ceci est, le jugement, je m'enferme en moi. C'est moi qui me fait connaître l'être. C'est moi qui me donne l'intelligence de l'être. Et donc, l'être devient relatif au je, au moi. Et de l'autre côté, le ceci est relatif à l'être. Cela, une simple petite analyse du « je suis » et de « ceci est ». Or, qu'est-ce que je cherche ? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à connaître ce qu'est l'être. Et comment je le connais ? J'atteins l'être de deux manières. Je l'atteins par « je suis », parce que je suis. aussi, j'existe. Donc j'atteins l'être en moi. Et j'atteins l'être dans l'affirmation, regardez l'autre, ceci est. Quand j'atteins l'être en moi, par la réflexion sur moi, je ne sors pas de mon moi. Et l'être est relatif à moi. Quand, au contraire, j'affirme ceci est, le ceci devient relatif à l'être. Et ça, je peux choisir, hein. Je suis libre, complètement. Je vois historiquement, dans l'histoire de la philosophie contemporaine pour moi, la philosophie de l'Europe, je verrai exactement la même chose dans la philosophie de l'Inde. Les deux aspects qui existent, deux aspects très nets, où je commence la philosophie par cette réflexion sur moi, où je commence la philosophie par l'affirmation ceci est. Et c'est pour ça que c'est très important. Parce que, vous savez, c'est comme pour les autoroutes, hein. Quand il y a une erreur, on s'en aperçoit très longtemps après. Et on s'en aperçoit très longtemps après, pour nous, très longtemps après, c'est le jugement dernier. Comment pourrais-je atteindre l'existence de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu? Ceci, ça m'intéresse quand même. Parce que si mon intelligence ne peut absolument jamais saisir Dieu, qu'elle ne saisit que moi, Dieu, c'est l'X complet. Certains l'affirment très bien, ou c'est par leur cœur qu'ils disent ça. C'est l'affectivité, c'est leur dévotion. Ils saisissent Dieu que comme ça. S'ils n'affirment pas Dieu, ils sont trop seuls. C'est vrai, il n'y a qu'eux qui existent. Ils sont très seuls. Ils sont des orphelins. Tandis que si vous affirmez Dieu, vous pouvez au moins vous reposer sur quelqu'un. Ça, c'est l'affectivité. C'est le raisonnement, vous voyez, chez tous ceux qui sont plus ou moins positivistes. Tous ceux qui commencent, qui regardent toujours uniquement le point de vue de la raison. Et qu'ils oublient l'intelligence. La raison saisit la relation et l'intelligence saisit ce qui est. Et l'affectivité, je suis. Et c'est intéressant, vous avez là trois positions par rapport à l'intelligence. Il y a un petit carrefour. Alors aujourd'hui, les petits carrefours, vous savez, on fait des ronds-points. Les ronds-points se multiplient. Parce que dans les ronds-points, vous pouvez choisir toujours trois dimensions. On ne fait qu'un rond-point parce qu'il y a trois dimensions. S'il y en a que deux, ce n'est pas la peine. Mais s'il y a trois, tout de suite le rond-point. Alors, le rond-point, c'est très bien, mais on peut rester indéfiniment dans le rond-point. Là, vous avez là tout de suite trois positions d'intelligence. Je suis, ceci est. Et puis, le point de vue de la raison. L'intelligence se confond avec la raison. Donc elle n'est plus faite pour l'être, elle est faite pour saisir la relation. Alors vous avez une intelligence qui regarde le moi, une intelligence qui regarde la relation, une intelligence qui saisit ce qui est. Et cela, tout le monde qui réfléchit un instant peut faire cette triple détermination. Et vous avez de fait, et c'est ça qui est intéressant à moi, vous avez de fait trois grandes orientations au point de vue philosophique. La philosophie de Hamelin, par exemple, je prends l'exemple, la philosophie de Hamelin, c'est la relation. Rien n'est au-dessus de la relation, vous ne saisissez que la relation. C'est la philosophie de la raison. La raison saisit la relation. La science, les mathématiques, c'est la relation. Vous avez la philosophie du moi, Descartes, Hegel. Descartes agrandi dans Hegel, poussé jusqu'au bout. C'est la philosophie du moi. C'est ça qui intéresse. C'est une philosophie, au fond, qui ne se sépare pas de l'affectivité. L'affectivité est comme englobée dedans. Puis vous avez une philosophie réaliste, une métaphysique réaliste, celle d'Aristote, celle de Thomas d'Aquin, la philosophie du jugement d'existence aussi. Alors, on peut choisir, si nous recherchons la vérité, je dis bien, si notre but, c'est de rechercher la vérité. Rechercher la vérité, c'est chercher la vérité de moi, c'est chercher la vérité aussi de l'autre. Chercher la vérité de l'autre, celui qui est sur ma route, du prochain. C'est ça, la vérité. Donc, si je recherche la vérité, mon choix est tout de suite fait. Je ne peux choisir que là où j'atteins tout ce qui existe, sans rien refuser. Le philosophe qui s'oriente dans par le jugement d'existence ne doit refuser aucune expérience. Ah, il peut les juger bonnes ou mauvaises, par l'éthique, bonne pour lui ou mauvaise, ça c'est différent. C'est pas refuser l'expérience, c'est dire à ce moment-là, pour moi c'est mauvais. Et c'est plus la métaphysique de l'être. Et si je cherche la vérité dans la connaissance de l'être, je n'ai qu'une seule piste qui me permet de rester dans l'objectivité, c'est ceci. Toutes les autres positions, dès le point de départ, rejettent une partie. Et si toutes les autres positions rejettent une partie, je ne peux pas les accepter. Parce que le philosophe doit chercher la vérité. Il doit chercher la vérité partout où il peut la trouver. Alors, il doit prendre ceci. Et c'est pour cela que nous choisissons ceci, le jugement d'existence. Et évidemment, en faisant ça, je prends une voie très différente de celle de Descartes, de celle de Hegel. En prenant ce jugement d'existence, je prends une voie différente de celle de Hamelin et celle de tous ceux qui veulent trouver la vérité uniquement dans les sciences mathématiques. Je mets les mathématiques à côté. C'est intéressant, c'est très intéressant, mais ce n'est pas ce qui va me faire découvrir l'être, ni permettre de découvrir l'être premier. Vous voyez, le choix que nous faisons est un choix critique. J'ai réfléchi sur les possibilités, mais c'est un choix qui est fait à cause de la vérité. Et c'est ça qui est important. C'est pas à cause d'Aristote, c'est à cause de la vérité. Et si je suis chrétien, c'est un choix que je fais parce que je sais que mon intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu.